Je dois bien avouer que cette initiative ducale m'inspira un sentiment partagé. D'un côté, je n'étais pas mécontent de filer avant que le sac de nœuds bromallois ne nous englue complètement dans un beau pétrin féodal. Mais d'un autre côté, cela signifiait se taper le trajet de retour avec ma haute dame Clarissima, puis retrouver les galères de la République, pour une croisière dont la principale escale serait probablement le siège de Vekinsberg. On ne peut pas dire que ce périple soulevait chez moi un enthousiasme débordant. Cesarino, de son côté, semblait aussi un brin chiffonné. « Je vous sais gré de votre prévenance, votre Altesse, » répondit-il en s'inclinant autant que le lui permettait l'armure. « Toutefois, il n'est pas forcément nécessaire que nous vous quittions tous les trois, surtout dans des circonstances aussi délicates. Le sénateur Skernitore pourra escorter son Altesse la Duchesse de Bromel, puis gagner Longomor et aviser l'amiral Faleri de la situation. Quant à moi, peut-être vous serais-je plus utile dans votre suite que sur nos galères. Je pourrais ainsi afficher l'appui direct que vous apporte la République de Tchoudalia dans ce conflit, quels que soient vos adversaires. Ma foi, si vous souhaitez combattre pour le plaisir, Seigneur Azikari, je vous garde volontiers dans ma compagnie, accepta le duc. Contre la sauvagerie ouromande, tous les renforts sont bienvenus. Mais ces mots furent prononcés avec plus de lassitude que d'enthousiasme. Comme Ganelon se désintéressait de lui, Cesarino crut comprendre qu'il était temps de se retirer. Il prit prétexte de la nécessité d'avertir Diletino de nos dispositions pour demander son congé, que le suzerain lui accorda d'un geste négligent. Je sortis sur les talons du patrice. Comme nous quittions le grand pavillon, nous fûmes presque aveuglés par la luminosité. Une éclaircie jetait des miroitements liquides sur les flaques, les fers de lance et les armures. Ces chatoiements seraient fugaces. De grosses nuées bleues sombres accouraient de l'ouest et s'apprêtaient à voiler le soleil. Dans cette atmosphère scintillante et détrempée, la foule s'agglomérait plus serrée que jamais autour des quartiers du Caux. Tractée par un vieux cheval de somme, une charrette aux grandes roues et aux hautes ridelles se frayait lentement une voie dans la presse. Elle se dirigeait vers le gros attroupement qui s'était formé autour de Blancandin, Claudas et leur gardien. Le fils du comte de Quimarc avait été dépouillé de son harnois cabossé. On achevait de le charger de fer sous les injures des soudards, des pages et valets d'armes. Un peu plus loin, le connétable et ses écuyers se remettaient en selle. Claudas éleva dans leur direction ses deux poignets enchaînés. Hé, Anaro ! Cria-t-il. J'espère que Ganelon t'a couvert d'or pour nous infliger ce déshonneur à toi et à moi. Un sergent d'armes lui décocha un coup de poing en pleine figure pour le faire taire. À peine à cheval, le connétable prit la direction des barrières avec ses hommes en faisant mine de n'avoir rien entendu. Cesarino avait suivi cette scène des yeux d'un air soucieux. La réconciliation semble mal engagée, regretta-t-il. « Tous des putains de cabochards, » opinai-je poliment, juste pour la conversation. Le patrice s'arrêta juste devant les piquets de garde et parut rassembler ses idées. « Il faut sortir de cette ornière, » murmura-t-il. « Si les relations continuent à se dégrader entre Bromel et Quimarc, le duché est menacé et la position de Clarissima compromise. Si vous voulez mon avis, votre seigneurie, vous feriez mieux de décamper avec le sénateur et la duchesse. » Le doute brouilla brièvement l'expression de Cesarino, puis il secoua la tête. « Non, non, » dit-il, « tout n'est pas perdu. Les armées sont à peu près indemnes. Si nous parvenons à obtenir ne serait-ce qu'une trêve entre le duc et le comte, la situation peut se retourner en notre faveur. Je vais m'y employer. Vraiment ? Vous ne croyez pas que vous avez les yeux plus gros que le ventre ? Je dois retourner voir le duc. Je vais lui proposer ma médiation avec Anguzel de Quimarc. » Cette foucade me fit faire la grimace. « Sauf votre respect, votre seigneurie, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Les Quimarc soutiennent l'ex-duchesse. Vous êtes le cousin de Clarissima et le représentant du podestat. Le comte Anguzel vous verra comme un ennemi. » « N'allez pas vous jeter dans la gueule du loup. surtout quand le louveteau est tenu par le duc. « Justement, » répliqua le Patrice, « m'exposer, c'est fournir un gage de bonne foi, ce qui fait dramatiquement défaut jusqu'à présent. Et n'oublie pas une chose, Benvenuto. Anguzel a fait de grosses dépenses pour le tournoi. Il doit être à court de trésorerie, alors que la guerre est engagée. Pour peu qu'il se montre raisonnable avec nous, je peux l'amadouer avec la perspective d'un arrangement financier, qui sait ? S'il devinait que notre projet de Port-Franc vise à contourner la fiscalité ducale, peut-être mettrait-il de l'eau dans son vin. » En me posant une main amicale sur l'épaule, Cesarino conclut. « Regagnez nos quartiers, Don Benvenuto. Transmettez au sénateur Schernitore le souhait formulé par le duc et instruisez-le de tout ce qui vient d'être dit. On ne sait jamais, je pourrais être retenu. Pour ma part, je dois revoir son Altesse dès maintenant. Il ne faut pas perdre de temps si je veux avoir une chance de m'associer au baron du Trèfle. Dans ce cas, je ferai mieux de vous accompagner. » Le jeune homme refusa d'un signe aimable. « C'est très obligeant de votre part, Don Benvenuto, mais je ne suis pas sûr que ce soit très approprié. Ne le prenez pas en mal. Je vais devoir recourir à une autre forme de persuasion que celle où vous excellez. » Sur cette boutade, il tourna les talons et fit savoir au sergent d'armes qu'il désirait reprendre son entretien avec le duc. De mon côté, je ne me pliais pas aussitôt à ses consignes. Le contre-coup des combats me coupait un peu les jambes, le dos me faisait mal, et je peinais à mettre de l'ordre dans mes idées. Je me disais que le podestat aurait sans doute approuvé l'initiative de son neveu, jusque dans sa résolution de me laisser à l'écart. Mais je savais aussi que le grand homme me rendrait responsable de tout ce qui était susceptible d'arriver à son protégé. L'avoir tiré d'affaire plus tôt dans la journée compterait pour rien si Cesarino était capturé, ou pire encore. Je balançais, incapable de prendre un parti, quand une gironde créature se faufila jusqu'à moi entre les gens de guerre. Sous le capuchon de la mante, je reconnus une jolie frimousse, la suivante de la baronne de Brégor. « Seigneur Benvenuto, que je suis aise de vous avoir trouvé !» s'écria-t-elle d'un air avenant. « Plus d'une dame a tremblé en vous sachant au milieu de cette grande mêlée. » Question bobard, la petite chatmite était à bonne école. J'aurais été plus en forme, je lui en aurais collé du tremblement pour rassurer les dames. Mais c'était moi qui avais pris un coup dans les reins. J'étais fourbu, et puis je savais Clarissima chatouilleuse sur le chapitre. Alors je m'abstins de saisir l'opportunité. Avec une candeur assez convaincante, la donzelle poursuivait. « On m'a chargé de vous demander si, au milieu de tant de hauts faits, vous aviez pu dépêcher une petite course personnelle. » Ces dames ne perdaient pas le nord, en tout cas. Tout de suite, les goulues. Elles auraient pu avoir la décence d'attendre un peu, le temps de laisser vos macelles se résigner à rendre les clés. Dites-leur que l'article n'était pas simple à dénicher. Mais que j'ai quand même réussi à mettre la main dessus, grommelai-je. L'affaire est conclue. Ou, c'est tout comme. La mignonne me gratifia d'un sourire charmant.
Quelle bonne nouvelle ! Se réjouit-elle. Voilà qui consolera quelques personnes de qualité du triste tour pris par ce pas d'armes.
Elle m'adressa une gracieuse révérence.
Je ne doute pas que nous nous reverrons rapidement, Seigneur Benvenuto,
me dit-elle sur le ton de la confidence.
On souhaitera sans doute vous remercier.
Quand elle me quitta, elle ne prit pas la direction du campement où j'avais été reçu par la maîtresse, mais s'enfila directement dans le pavillon ducal, avec la permission tacite de la garde. La baronne de Brégor tenait donc compagnie à Clarissima. Il était même probable que les deux vipères avaient espionné le conseil ducal. Puisqu'on m'avait demandé des comptes à la dérobée, Ganelon n'était sans doute pas de mèche avec sa jeune épouse dans l'assassinat du chevalier. En cas de besoin, cela pouvait m'offrir un levier intéressant. N'empêche, je ne me sentais pas tranquille. Les circonstances m'avaient poussé à bâcler le travail. Je ne doutais pas trop des suites. La pratique des champs de bataille et des rixes de rue m'avait démontré qu'il fallait souvent un moment pour succomber à une blessure mortelle. J'aurais quand même préféré être fixé. J'avais le sentiment désagréable d'avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tant pis. Les dés étaient jetés. J'avais fait ce qu'on m'avait demandé de commettre. Et les chances se trouvaient de mon côté de la table plutôt que du côté de vos macelles. En plus, Clarissima avait désormais sur les bras de nouveaux problèmes. Elle aurait d'autres chats à fouetter que chercher à vérifier si j'avais fignolé le boulot. Elle quitterait bientôt Lindinas. Pour ma part, il me paraissait plus probable que j'allais rester et veiller sur la sécurité de Cesarino. Cela me délivrerait de la compagnie de Dilettino et de ses larbins. Cela m'épargnerait surtout de renouer avec les joies de la navigation. Tant qu'à remettre le couvert, je préférais nettement découdre sur terre plutôt que sur les flots. Ayant pris mon parti, je regagnais les quartiers de l'ambassade tchoudalienne, pressé de me débarrasser de l'armure et de panser mes plaies. Pendant les heures qui suivirent, on put croire que les choses allaient se tasser. L'assaut des troupes ducales contre le camp du dedans se solda par une grosse échauffourée. Quelques blessés, quelques morts, un peu de rapine derrière les lys, rien de très méchant. Le vieil Anguzel, férocement défendu par les chevaliers et les sergents de son hôtel, ne s'était pas laissé faire. Conformément aux instructions de son suzerain, le connétable avait ordonné la retraite quand il avait vu que la trapade piétinait. Alors que la nuit était déjà avancée, Cesarino avait fini par réapparaître. Il était plutôt content de lui. Ganelon, d'abord peu convaincu par ses propositions, avait néanmoins accepté de l'envoyer avec le baron d'Utrecht pour reprendre les pourparlers avec le comte de Quimarc. Fort mal accueilli par Anguzel, les émissaires avaient montré suffisamment de tact et de souplesse pour obtenir le principe d'une entrevue entre le comte et le duc, prévue pour le lendemain. Le patrice ne criait pas encore victoire. Il était conscient que la rencontre ne tenait qu'à un fil et qu'elle pouvait fort mal se conclure. Il était heureux malgré tout d'avoir ménagé cette fragile occasion de renouer le dialogue. De mon côté, les choses prenaient également bonne tournure. Une fois débarrassé de l'armure, je pus faire examiner mon dos par un barbier. En fait, je n'avais presque rien, juste un gros hématome. La dossière de la cuirasse avait été tordue par le coup de hache, et c'était ce bec de métal qui, en frottant les chairs tuméfiées, me faisait douiller. Une fois délesté de la carapace, je ne me sentais plus qu'un vague limbago. En fait, au cours des jours suivants, ce fut ma main, inexplicablement écorchée, qui me fit le plus souffrir, comme si j'avais gardé des échardes sous la peau. Mais franchement, ce n'était pas cher payé pour la sarabande où on m'avait jeté. Je m'en tirais à bon compte. Le lendemain, dès Potron Minet, ce fut un sacré branle-bas. Sans les confidences optimistes de Cesarino, j'aurais pu croire qu'on grimpait de plusieurs tons sur l'échelle de l'explication virile et qu'on s'acheminait vers une énorme tuerie, débarrassée des civilités du tournoi. À grand renfort de hurlements, de sonneries de cor et de trompes, les deux armées se mirent en ordre de bataille. Le spectacle était un peu moins coloré que la parade de la veille, mais l'énormité des escadrons suffisait à vous nouer les tripes. Du côté de Bromel, les flots métalliques de l'infanterie se hérissonnaient de fer de vouge et de guisarmes, suivis par la muraille bariolée des chevaliers et de leurs destriers. En face, Anguzel de Quimarc avait abandonné son camp de plaine et avait regroupé ses forces autour du verger et du château de Lindinas. L'armée du comté paraissait 3 à 4 fois moins nombreuse que celle du duché, dont les ailes enveloppaient ses positions de façon menaçante. Les troupes d'Anguzel s'étaient toutefois retranchées derrière une double rangée de pieux dressés pour rompre les assauts adverses. La tour et les remparts du fortin étaient couverts d'arbalétriers. Même la chevalerie avait mis pied à terre pour mieux s'accrocher au terrain. L'os ducal, fort de sa supériorité, avait probablement les moyens de vaincre, mais au prix de pertes sévères. Allait-on en découdre? Les paris étaient ouverts au sein de la soldatesque. L'humeur était cependant plus morose que belliqueuse. La rumeur de la chute de Vikingsberg s'était répandue dans les campements et avait semé la consternation. Chez les Bromalois, les avis à propos de la félonie d'Anguzel étaient partagés. Certains croyaient que le comte avait passé un pacte avec les Artclyde pour faire plier le duc. D'autres doutaient qu'un grand seigneur qui avait consacré 40 ans de son existence à repousser les Ouromans ait pu s'acoquiner avec eux. Quand on traversait les rangs de l'infanterie, l'oreille était frappée par 100 échos de ce débat. Ici ou là, des vétérans grommelaient qu'on aurait mieux fait de s'occuper du cas des barbares. Toute cette grogne montrait que ça branlait du manche. L'host ducal, si puissant et bien équipé fut-il, était en proie au doute. Or, on emporte difficilement la décision avec des troupes qui se tâtent. La rencontre au sommet eut lieu vers le milieu de la matinée. Comme la confiance régnait entre Brommel et Kimark, il avait été convenu que l'entretien aurait lieu en terrain neutre, au vu et au su de tous. Il devait se faire en petit comité. Bizarre paradoxe, les armées entières étaient témoins, mais quasiment personne ne connaîtrait la teneur exacte de l'échange. Rendez-vous avait été fixé sous l'arbre aux écus, le grand charme un peu isolé qui se dressait sur la prairie de Lindinas. Dès le début, Ganelon donna le ton. Escorté par 6 chevaliers de son hôtel, il marcha à la rencontre d'Anguzel en compagnie de Clarissima. Je ne pus m'empêcher d'admirer le cran de la Pimbèche, à tourner comme pour un jour de fête, qui chevauchait sa grande hacnée à côté de son vieux rupin et des preux armés jusqu'aux dents. En s'affichant avec sa jeune épouse, le duc posait d'emblée certaines limites. Il refuserait toute concession à l'ex-duchesse. C'était une entrée en matière plutôt raide pour ouvrir les pourparlers. Je me demandais lequel des deux époux en avait eu l'idée. Hormis les quelques chevaliers de son escorte, Ganelon avait écarté tout autre dignitaire de cette causerie. Sous la gouverne du connétable, Lanval assurait le commandement de l'ost et les grands vassaux officiaient à la tête de leur détachement. Même le chancelier Djatchekrimen avait été exclu en dépit de ses nombreux talents. Quant aux grands bâtards et à ses brutes, ils avaient été relégués en arrière-garde, de crainte que la présence des mercenaires ou romans n'excite un peu trop l'animosité générale. Le patrice Razikari, le sénateur Skernitore et le grand argentier Djezoufal étaient réduits à assister à l'entrevue de loin, depuis le front des troupes, au milieu de gens de qualité en grand harnois. Diletino affichait un air plus contrarié qu'effrayé. Il pressentait que la guerre rendrait ses nobles débiteurs aussi insolvables que lui. Cesarino avait du mal à cacher sa nervosité. Il trouvait Clarissima imprudemment exposée et craignait que la médiation qu'il avait conduite la veille ne porte pas ses fruits. Quant à moi, je retrouvais le pli du vieux soldat. La routine de la carrière des armes, attendre et voir. De toute façon, même si les choses tournaient mal, je ne comptais pas me faire tuer pour le duché. J'empêcherais tout au plus Cesarino de jouer au héros. En revanche, je faisais pleine et entière confiance à Diletino pour sauver ses fesses par ses propres moyens. Je m'étais d'ailleurs moins lourdement équipé que la veille. Faute d'avoir trouvé le temps de faire redresser ma dossière dans une forge, j'avais négligé de me cuirasser. L'entretien traîna en longueur. Sous l'arbre, on voyait assez mal les suzerains, en partie dissimulés par les chevaliers des escortes. Les salutations entre le comte de Kimark et le couple ducal avaient été suivies par les deux armées dans un silence impressionnant. Mais plus le colloque durait, plus la tension se relâchait. Les chevaux encensaient, les casques s'agitaient, l'alignement des lances perdait sa régularité. Un bourdonnement de conversation montait des rangs. Ces interminables palabres finirent par donner de l'espoir aux patrices. Si l'on avait tant de choses à se dire, c'est qu'on était capable de s'entendre. Je n'étais pas sûr de partager son optimisme. Entre esprits butés, un dialogue de sourds peut tourner en rond. Et puis j'avais trop fréquenté la truanderie comme la bonne société pour m'aveugler sur la nature des gens cupides. Plus longtemps le faisandier vous passe de la pommade, plus il cherche à vous endormir avant de vous dépouiller. Le singulier de cette histoire, c'est que je faillis passer complètement à côté de l'essentiel. Comme la plupart des soudards que lassait cette interminable conférence, j'étais distrait. Je laissais vaguer mes yeux sur le front adverse. Je prêtais l'oreille au bavardage de mes voisins. Je regrettais de ne pas avoir embarqué une petite fiasque pour tromper la soif. Bref, je faisais mon badaud. Encore un peu, et je n'aurais pas vu venir la tuile. On touchait au début de l'après-midi quand l'entrevue prit fin. Anguzel reprit le chemin du petit château, le couple ducal revint vers nous. Les deux armées s'ébrouèrent, avides d'en apprendre davantage. Était-ce la paix ou la guerre? Allait-on se battre, se réconcilier? C'est le moment de vérité, s'écria Cesarino avec une impatience inquiète. Mais tout d'un coup, moi, j'avais l'esprit capté par toute autre chose. Un des chevaliers accompagnant le comte avait fini par m'accrocher l'œil. Dans ce colloque, à 200 toises de notre ligne, les hommes d'armes de l'escorte ducale s'étaient interposés entre nous et ceux de Kimark. Il m'avait été difficile de distinguer le cavalier pendant l'entrevue. Mais lorsque les groupes s'étaient séparés, la blancheur de sa cotte d'armes avait fini par retenir mon attention. Blanc comme neige, le paladin avec sur ses armoiries des meubles si petits qu'ils étaient indistincts à cette distance. Il allait nu-tête, impossible de reconnaître un casque ou un cimier. Toutefois, un je ne sais quoi de raide dans l'allure et l'espèce de foulard azur noué à son brassard vinrent me tarabuster. En scrutant de haut en bas ce client, mes yeux finirent par glisser sur le cheval, un destrier énorme dont je remis le caparaçon. Et pour cause, la veille, au cœur de la bagarre, j'avais tenté d'éventrer le canasson, et ma demi-lance avait buté dans cette barde. Le trac me coupa la chic avant que j'ose seulement m'avouer ce que je venais de découvrir. Pas possible. Pas après le coup de tranchelard que je lui avais allongé dans le buffet. Qu'il ait survécu encore, c'était un malheur qu'on ne pouvait pas complètement écarter. Je n'avais pas eu le temps de conclure dans les formes. Mais qu'il soit debout dès le lendemain, et en armure, s'il vous plaît. Qu'il vienne de rester le cul sur la selle pendant les 2 bonnes heures que le duc et le comte venaient de passer à barguigner. Non, ça n'était clairement pas possible. Pas avec le courant d'air que je lui avais ouvert dans le soufflet. C'était quelqu'un d'autre, j'avais la berlue, ce qui était plutôt normal à pareille distance. Et pourtant, alors qu'il remontait le chemin vers la poterne du château au milieu des troupes de Kimark, je croyais bien reconnaître le balancement de ses épaules cuirassées. C'était le même que la veille, quand il avait échangé quelques mots avec Lanval sans l'affronter. J'en eus la bouche sèche. J'avais beau chercher à me convaincre du contraire, il était difficile de nier l'évidence. J'avais merdé. J'avais complètement loupé vos macelles. C'était horriblement vexant. Comment est-ce que j'avais pu perdre la main à ce point? J'aurais pourtant juré du contraire. Je l'avais planté en pleine caisse, jusqu'à la garde, ce putain de gaffre. Est-ce que je m'étais trop ramolli en menant une vie de palais? Pourtant, sous le coup de la panique, en pleine tempête et avec le mal de mer par-dessus le marché, je l'avais chouriné d'un seul coup le quartier maître de la Frivolezza. Tueur un jour, tueur toujours. Ce n'était pas possible. Je n'avais pas pu me vautrer à ce point. Très vite, ma perplexité et mon embarras se trouvèrent assaisonnés par une gentille poussée de trouille. Si contre tous les usages traumatologiques, c'était bien Vaumacelle qui avait escorté le comte de Kimark, alors la duchesse Clarissima Ducatore venait de passer 2 bonnes heures en compagnie du client qu'elle m'avait demandé de zigouiller, et dont elle pensait le cas réglé. Difficile de faire plus complet comme ratage. À ce point-là, ça tenait du grand art. Déjà qu'elle ne me portait pas dans son cœur, ma bonne amie Clarissima, elle n'allait pas manquer de me chanter pouille. La frousse me fit sauter directement à la conclusion de ce qui me pendait au nez. La Duquesina ne croirait pas qu'il s'agissait d'un invraisemblable loupé. Comment l'aurait-elle pu? Non seulement elle connaissait ma réputation, mais elle m'avait déjà vu à l'œuvre. Même moi, je ne parvenais pas à me convaincre que le chevalier là-bas était toujours en état de parader comme si de rien n'était. Bref, Clarissima ne se dirait pas que j'avais été maladroit, elle se persuaderait que j'avais cherché à la doubler.
ce qui à coup sûr allait m'inscrire assez haut dans son palmarès personnel des gêneurs à liquider. Cesarino continuait à me parler. Le front de l'armée ducale s'agitait avec des mouvements concurrents d'agressivité et d'espoir. Mais je dois avouer que tout cela me passait soudain largement au-dessus de la terrine. J'avais reporté mon attention sur le couple ducal et son escorte. Je scrutais le minois boudeur de la suzeraine. Comme d'habitude, surtout lorsqu'elle était soumise à l'attention publique, elle tiquait. Au moment où, entre elle et moi, ça se remettait à patiner sévère, pas de doute, elle tiquait. À peine de retour, le duc tint conseil. Cesarino décida de s'y rendre en se réjouissant de ce signe qu'il estimait plutôt favorable. Au moins, on n'en était pas aussitôt venu aux mains. Pour ma part, je ne proposais pas de l'accompagner. Non que j'aie craint que l'attentat raté puisse venir sur la table. J'étais à peu près sûr que Ganelon ne trempait pas dans le contrat. Et quoi qu'il en soit, ce genre de réclamation, y compris quand elle était brutale, se traitait en toute discrétion. J'estimais juste que le moment n'était pas opportun de la ramener devant leurs altesses ducales. Certes, Philidou, en attendant que passe l'orage, ne relevait pas forcément de la meilleure politique. Mais j'avais besoin de digérer le plantage, de rassembler mes idées. Et puis, peut-être que la chance aidant, avec l'invasion ouromande et la rébellion de Lex, les suzerains auraient d'autres chats à fouetter que les services foireux du grand argentier de l'ambassade. Je dois avouer que c'était quand même vexant de raisonner ainsi. Je me faisais l'effet d'être tombé aussi bas que Dilettino Schernitore. La rumeur courut le camp ducal avant même la fin du conseil. Ganelon et Anguzel avaient convenu d'une trêve. Dès le lendemain, l'armée marcherait vers le sud-ouest en direction de l'estuaire de la Claye et de Vikingsberg. Peu après, Cesarino nous rejoignit dans nos quartiers. Je craignais qu'on l'ait chargé d'une invitation à me présenter devant la duchesse. Mais il ne me transmit rien de tel. Le patrice avait l'air soulagé et satisfait. Grâce à lui, on en apprit davantage. La plupart des litiges étaient toujours pendants entre le duc et le comte, mais, nécessité ayant force de loi, ils avaient décidé de mettre leurs différends sous le boisseau le temps de repousser l'offensive Hartclyde. Sur ce front, les dernières nouvelles étaient des plus inquiétantes. Non seulement le grand port sur la Claye était tombé, mais la baronnie de Kerlund était également attaquée plus haut dans la vallée. Plus loin en amont encore, sur le cours de la Claye, le comté de Brockmel se trouvait également en butte à des incursions barbares. Cette pression ennemie sur divers points de passage du fleuve ne ressemblait guère à un raid, mais bien à un début d'invasion. Pour l'heure, le comté de Kimark restait épargné de façon assez suspecte aux yeux du duc et de ses conseillers. Mais le fief d'Anguzel se trouvait enclavé entre Vikingsberg et Kerlund. Anguzel craignait d'être pris en tenaille si les barbares n'étaient pas rapidement repoussés. Pour cette raison, le comte avait accepté, sinon de renier la cause d'Odéhard, du moins de remettre à plus tard ce débat. À propos du tournoi, il avait aigrement échangé des accusations de perfidie avec Ganelon. Mais la querelle avait également été repoussée à des circonstances moins périlleuses. Pour l'heure, on rachèterait les prisonniers selon les conventions d'usage. Les échanges de captifs devaient d'ailleurs limiter le coût financier des rançons. Le duc était toutefois demeuré intransigeant à propos de Blancandin. Il avait décrété qu'ayant racheté son fils au connétable de Traval, sa rançon avait d'ores et déjà été versée. Le jeune prince n'était donc plus prisonnier, juste soumis à l'autorité paternelle qu'invoquait Ganelon pour le contraindre à rester près de lui. Quant à Claudas de Kimark, le duc avait accepté de le libérer contre 2000 marks d'argent. C'était une somme astronomique, l'équivalent de 150 000 florins, que le comte ne pourrait rassembler qu'au bout de plusieurs mois, sinon un an, et encore, en se saignant aux quatre veines. Au cours du conseil où Ganelon avait rapporté ce maquignonnage, il s'était vanté d'avoir été tout près de pousser Anguzel à sortir de ses gonds et à rompre les négociations. Cela n'aurait toutefois été dans l'intérêt de personne. Finalement, un moyen terme avait été trouvé. Claudas resterait prisonnier sur parole en attendant que la somme soit versée. Le jeune qui marque combattrait dans le banc bromalois. Une façon habile de la part du duc de conserver un otage pour contraindre Anguzel à l'appuyer dans cette guerre. Grâce à ce compromis, l'ost ducal lèverait donc le camp dès le lendemain. Pendant que l'armée marcherait à l'ennemi, la duchesse et le chancelier regagneraient Carwell avec les dames, les artistes et la clergie. Di Lettino se montra ravi d'apprendre qu'il filerait sous peu dans les bagages de la duchesse. Pour ma part, je me sentis incroyablement soulagé. Plus que quelques heures et je serai débarrassé de Clarissima, puisqu'il allait de soi que j'accompagnerais Cesarino dans l'entourage du duc. J'en étais presque guigré. Courir sus à dehors de Zouromande m'apparaissait comme une issue quasiment festive pour me soustraire à la crimonie de la Pimbèche. Malheureusement, j'allais un peu vite en besogne. À la nuit tombante, un écuyer de l'hôtel de la Duchesse se présenta dans nos quartiers. J'étais convié séance tenante par son Altesse ducale Clarissima. Quel couillon j'avais été! Croire pouvoir m'en tirer à si bon compte, comme si Clarissima Ducatore avait un tempérament à passer l'éponge. Elle n'avait pas avalé la couleuvre. Elle allait me présenter l'addition. Cette convocation piqua la curiosité de Cesarino et Di Lettino. Même sans être au parfum de ma petite affaire avec la haute dame, ils saisirent aussitôt qu'il y avait anguille sous roche. Voilà qui en rajoutait une louche. J'avais la certitude qu'une fois rentré à Tchoudalia, le patrice rapporterait à son oncle qu'il s'était noué une intrigue entre Clarissima et moi. Quant au sénateur Schernitore, je lui faisais confiance pour tirer les vers du nez de la duchesse pendant leur voyage de retour. Je me faisais une idée assez chagrine de la palette dont userait la puissante dame pour noircir le tableau, puis de la manière dont Di Lettino n'en retiendrait que le pire pour l'assaisonner à sa sauce. Mes oreilles allaient drôlement siffler lorsqu'on en causerait dans les palais de Torresella. Pas moyen de me défiler, en tout cas. Il fallait que j'affronte le problème, contraint et forcé de manger mon chapeau devant la donzelle. Je dois avouer que j'étais dans mes petits souliers. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la cérémonie de remise de l'anneau du gourmand et à ses agapes sanglantes. Une frousse sans fondement, bien sûr. Clarissima savait peut-être faire appel à la guilde, mais ne pouvait en être. Elle ignorait donc tout de cette petite cuisine. Ceci dit, si elle était vraiment hors d'elle, qu'est-ce qui l'empêcherait de trouver un autre moyen de me faire passer le goût du pain ? Elle ne manquait pas de raison de m'en mettre plein la gamelle. Avant de me présenter devant la gracieuse dame, je jugeai donc plus prudent d'enfiler un buffle sous le pourpoint. Je me débarrassai de l'épée, trop déplacée pour faire acte de contrition, mais j'y allais quand même armé. Comme j'avais perdu ma dague au cours de l'échauffourée où Vaumacel n'avait pas montré assez de savoir-vivre pour clamser, je barbotai une rallonge à l'un des phalangistes de notre escorte. Elle avait moins de classe que mon Acherini, tant pis. Je n'allais quand même pas pousser la repentance jusqu'à ramper sans lingue. Le campement bromalois était en plein déménagement quand je suivis l'écuyer jusqu'au pavillon ducal. Je mis un point d'honneur à rester de glace lorsqu'on m'introduisit dans le chapiteau central. Le duc s'y trouvait toujours en compagnie du chancelier, d'officiers et de grands seigneurs avec lesquels il réglait l'ordre de marche de l'armée. Il y avait beaucoup d'agitation et d'allées et venues. Fort heureusement, ni le suzerain ni ses officiers ne m'accordèrent d'attention. Mon guide me mena dans une aile du pavillon et souleva une portière d'étoffe pour me faire entrer dans un logis privé. Question confort, la chambre de la duchesse de Bromel éclipsait la tente de la baronne de Brégor. À peine y avait-on mis les pieds, on souatinait dans une bonbonnière de luxe spectaculairement chargée. En fait, cet étalage outrancier de richesses intimidait plus qu'il n'invitait au farniente. Majestueux baldaquins à volets sculptés, débauches de tapis de récine, tapisseries armoriées et florales, cathèdres molletonnées de coussins, cassolettes parfumées, chaufferettes de fer forgé, coffres marquetés qui couvraient une argenterie étincelante, petit oratoire privé avec prie-dieu de bois précieux et grand triptyque doré. Ce mobilier fastueux aurait probablement suffi à payer la rançon du fils qui marque. Bien sûr, toute une ruche féminine peuplait les lieux. On y découvrait un tel tourbillon de jupons, de robes et de coiffes sophistiquées qu'il y avait de quoi se demander comment on pouvait entasser tant d'oiselles avec tant de meubles. Et il faudrait transbahuter tout cela dès le lendemain. Sûr que les femmes de semaine étaient à la fête. Au moins, mon arrivée fut pour elles l'occasion d'une petite pause. Une voix, à la diction trop irréprochable pour être celle de Clarissima, donna congé à toutes les demoiselles de compagnie. La volière se précipita dehors en me frôlant au passage. En d'autres circonstances, je n'aurais pas boudé mon plaisir. Ce n'était pas tous les jours que j'avais le haut de chausse caressé par les cotillons de la haute noblesse. Mais la vie est vraiment mal foutue. Vu la situation, je n'en tirais aucun délice. Je crois même que j'aurais préféré troquer ma braguette contre une robe pour participer à la débandade. Au bout de quelques instants, je me retrouvais face à mes trois interlocutrices. Car naturellement, la duchesse n'allait pas rester seule avec un gentilhomme aussi galant que votre serviteur. Ce genre d'étourderie avait coûté drôlement cher à madame la précédente. Rien qu'à voir les chaperons que Clarissima avait choisis, je compris qu'on allait me menotter étroit sur la sellette. À la droite de la duchesse, la baronne Hérambourg de Brigor me considérait avec le plus parfait dédain. À sa gauche, c'était la petite Parvule de L'Aulnay qui me toisait d'un air revanchard. Avant même que l'une des péronnelles n'ait ouvert la bouche, j'eus le pressentiment que je sortirais plus étrillé de ce boudoir que de la grande mêlée de la veille. « Voyez-vous cela ?» s'étonna perfidement la première dame de compagnie. « Il a quand même osé paraître devant vous, votre Altesse. » « Quoi d'étonnant ?» commenta la baronne. « Les gens de cette espèce sont dépourvus de vergogne. Il ne faut jamais fonder trop d'espoir sur la roture. » Et encore moins sur les mercenaires. En d'autres circonstances, j'aurais sans doute relevé le gant et ferraillé avec les langues de vipère, mais mon échec me bridait plus efficacement qu'une escouade. Le moment n'avait rien d'approprié pour faire assaut de pointe. Je dus donc piteusement fermer ma gueule. Contre toute attente, Clarissima abrégea la fessée. « Ne gaspillez pas votre salive. » marmonna-t-elle. « De toute manière, il n'a que faire de votre opinion. » Comme quoi, elle me cernait plutôt bien, mais cela n'avait rien pour me rassurer. Elle planta son regard dans le mien, le visage tordu par un spasme. « Tu as merdé, » constata-t-elle froidement. « J'ai merdé, » convins-je du bout des lèvres. De toute façon, il aurait été ridicule de chercher à me justifier. Comment est-ce qu'un boucher comme toi peut rater son coup ? C'est des choses qui arrivent. La petite duchesse se mit à jouer avec les perles d'un collier tout en me gratifiant d'une moue soupçonneuse. Moi qui m'étais attendu à être agonie d'insultes et de railleries, cette retenue teintée de méfiance me surprenait plutôt. Je ne m'en trouvais pas rassuré pour autant. Dans un sens, l'attitude était même plus inquiétante. « En fait, tu as exécuté ses ordres, » lâcha-t-elle d'un air entendu. « Je vous demande pardon. Ne me prends pas pour une cruche. Tu as suivi les consignes de mon père. » Un instant, je crus entrevoir une échappatoire. Plaisant malentendu. Clarissima ne croyait pas que j'avais réellement tenté de tuer vos macelles. Elle s'imaginait que le podestat m'avait ordonné de ne pas faire de vagues, raison pour laquelle je serais rentré bredouille de la foigne. Grâce à ce mécompte, je pouvais sauver la face. Bien sûr, cela nécessitait de faire un peu porter le chapeau au patron, mais comme cela lui prêtait plus de modération qu'il n'en avait, j'étais certain qu'il ne m'en aurait pas trop voulu. « Et donc tu m'as menti ?» poursuivit la duchesse sur un ton plus coupant. Mes espoirs retombèrent aussi secs. En fait, le chaud et froid fut si rapide qu'il manqua me faire perdre mes moyens. Ma position m'a paru soudain plus délicate encore que ce que j'avais cru avant d'entrer dans la tente du Cal. Car si Clarissima avait simplement admis la vérité, à savoir que pour une raison inexplicable j'avais foiré l'assassinat, elle m'aurait pris pour un raté. Et la frustration aidant, elle m'aurait juste tyrannisé de plus belle. Alors qu'en s'imaginant que mon échec n'en était pas un, en y suspectant une manipulation de son paternel, elle le prenait comme une trahison personnelle. Non seulement le contrat n'avait pas été honoré, mais le louper allait déboucher sur un fiasco autrement grave. À l'inverse de ce que m'avait demandé le podestat, l'hostilité que sa fille lui vouait en sortirait ravivée. Avec une sueur froide, je me représentais aussitôt ce que cela impliquait. Clarissima ne manquerait pas d'appuyer toutes les grandes familles exilées. La piraterie contre nos navires allait flamber. Les factieux s'agiteraient de plus belle à Tchoudalia. Et pour peu que l'offensive de Ganelon contre l'Ouromagne patauge, le Sénat lui-même lâcherait le patron en raison de l'échec de ses plans. Or, à qui incomberait la faute aux yeux du podestat? Pas la peine de faire un dessin. Le quiproquo, en fait, sentait la veuve. Je levai les deux mains pour calmer un peu le jeu. « Écoutez, Votre Altesse. Tiens, il me sert du « Votre Altesse », ricana l'intéressé. « Je suis même prêt à vous sortir du Majesté ou du « Votre Sainteté » si ça vous chante, mais laissez-moi en placer une. Il y a méprise. Son Excellence Ducatoré m'a demandé d'exécuter le moindre de vos caprices, y compris les plus saignants. C'est ma faute si ça a foiré, pas la sienne. » Elle était quand même raide, celle-là. Une fois de plus, contraint de jouer les lampistes de service. Non seulement j'étais réduit à me mettre plus bas que terre, mais en plus il fallait que je m'écrase en présence de la Brégor et de l'Aulnay. « Le gentil chien-chien à son pépère !» me dauba la garce. « Plus tu cherches à le couvrir, plus je vois clair dans votre jeu. D'accord, vous avez pas tort de vous méfier de ce que je raconte, mais avant de commettre une grosse erreur, vous feriez bien de vérifier vos intuitions. Vos macelles, j'ai vraiment essayé de l'endormir. J'ai des témoins. Demandez donc à Lanval, au connétable, à Fitzganelon. Ils étaient tous là. » La duchesse partit d'un rire de gorge. « L'assassin qui prend des témoins pour commettre son crime, » s'égaya-t-elle. « On aura tout entendu. Tu as peut-être fait établir un acte notarié ? Payez-vous ma tête tant que vous voudrez, mais demandez-leur quand même. Bordel ! Je l'ai suriné devant eux. Et moi, sale menteur de merde, je viens de passer 2 heures en sa compagnie, au chevalier, alors que tu m'as fait dire qu'il avait son compte. J'étais sûr qu'il allait y passer. Je l'ai planté en pleine caisse, le client, et j'y ai pas été avec le dos de la cuillère. J'y entrave que dalle à cette embrouille. Mais ça sert à rien de me défarguer. Vous ne me croyez pas et je serai à votre place, je réagirai pareil. Alors on va mettre les choses au propre. Je vais y retourner, je vais le retrouver, le paladin, et puis je vais l'achever. » Clarissima haussa un sourcil. « Vraiment ? » releva-t-elle. « Je vais me débrouiller, je termine le boulot. Comme ça, vous verrez que je suis d'équerre et qu'il n'y a pas de lézard. » La duchesse se laissa aller contre le dossier de son haut siège. Elle accueillait ma proposition avec plus de scepticisme que de surprise. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, que tu retournes tuer vos macelles ? Demanda-t-elle tranquillement. Ce fut à mon tour de tiquer. Elle me faisait quoi, là ? Une feinte ? Un caprice pour me faire tourner en bourrique ? C'était la commande, non ?
Oui, c'était la commande.
Alors il y a juste eu un petit contretemps. Je vais boucler l'envoi.
Tu connais l'adage, Benvenuto ? Souvent, femme varie. Ce que je voulais avant-hier, aujourd'hui je n'en ai plus rien à battre. »
L'exaspération assombrit sa pupille.
« Tu as laissé passer le coche, c'est trop tard, » vitupéra-t-elle.
« La mort de vos macelles était utile tant qu'il représentait un symbole, le porte-étendard de la duchesse répudiée. Mais maintenant que la salope est dans la nature, buter le gêneur ne refroidira plus grand monde. Qu'il vive ou qu'il crève, de toute façon, l'incendie s'est mis à courir. Même s'il était mort hier, ça n'aurait pas changé grand-chose. Odéhard avait déjà pris le large.
Bien sûr que si, pauvre couillon, ça aurait changé quelque chose. Ça aurait prêté à réfléchir à Anguzel avant les négociations. Maintenant, ça ne rime plus à rien. Ce genre d'initiative à contre-temps, c'est pire que l'inaction. On ne va pas risquer l'accord consenti du bout des lèvres par qui marque en frappant un de ses pantins avec un coup de retard. Qu'est-ce que je pouvais répondre à cela? En fait, je n'aurais pas été empêtré dans cette situation fausse, j'aurais été le premier à y penser. Et je me serais abstenu de ce zèle maladroit. De plus en plus vexant. Dans l'affolement, je perdais ma lucidité. Je me mettais à causer comme un gascâtre mal dégauchi. Il faut dire, j'avais de quoi être secoué. À moins que Vaumacel ne se rappelle au bout d'un moment que je l'avais poignardé en plein coffre et qu'il était l'heure de se coucher, plus moyen de prouver à Clarissima qu'elle se trompait. Une grande partie de la politique bromaloise du Podestat allait partir en eau de boudin. J'étais sur le point de me retrouver tricard aussi bien Tchoudalia que dans le duché. Les trois grâces me scrutaient avec un intérêt féroce. Les carnes. Elles suivaient sans problème le fil de mes idées. Elles se repaissaient du spectacle. Je n'étais pas encore à terre, mais je ne sentais que trop tous mes appuis sur le point de lâcher. Les nobles dames se tenaient prêtes à soulever l'ourlet de leur robe pour m'écraser la gueule à coups de talon dès que la disgrâce m'aurait fauché. Acculé dans l'impasse. Ça ne servait à rien que je m'éternise. Autant filer pour frustrer les rombières de leurs petits plaisirs. Juste au moment où je me redressais pour cracher une formule d'un goût discutable, la côtelle du truand me retint. Dans l'œil fixe des harpies, quelque chose se dissimulait derrière la cruauté. Une émotion qui m'était terriblement familière, parce que j'avais l'habitude de la croiser, et souvent de la provoquer. En fait, d'une certaine façon, on se ressemblait, ces vipères et moi. La méchanceté chez elle ne trahissait pas seulement un vice aristocratique, elle était alimentée par l'angoisse. C'était pourtant l'évidence. La duchesse de Bromel, la baronne de Brégor et la dame de Vernejoul avaient la trouille. Pas de moi, de quelqu'un d'autre. Et soudain, la vérité me sauta aux yeux. Clarissima n'avait pas choisi n'importe qui pour l'occasion. Elle s'était entourée des deux marraines qui avaient cafardé pour faire tomber l'ex-daronne. Elle ne m'avait pas convoqué à seule fin de me faire mon paquet. Ce n'était que le premier mouvement de la conversation, juste dans le but de m'attendrir, avant qu'on ne se mette à causer de choses plus sérieuses. « Je crois que nous y sommes », observa la très distinguée Erambourg d'un air sibyllin. « Pas trop tôt », maugréa Clarissima. « J'ai bien cru qu'il était devenu complètement idiot. » C'était clair comme de l'eau de roche. Elle me mettait à l'épreuve. Elle m'offrait même une porte de sortie. Mais leur dessein était si dangereux et si énorme qu'elle n'osait même pas l'énoncer de façon explicite. « Je suis pas bien sûr de comprendre », chuchotai-je sur le ton de celui qui a trop bien compris. « Il est devenu complètement idiot », soupira la duchesse. Parvulle de L'Aulnay me considérait la bouche en cul de poule avec le plus parfait dédain. La baronne me jaugeait avec plus d'intérêt, devinant que j'avais deviné ce qu'on attendait de moi, et guettant le moindre signe d'assentiment de ma part. Clarissima faisait mine de s'impatienter. Bien sûr, j'entrevoyais où ces trois poisons voulaient en venir. En fait, cela coulait de source. Pour ces maîtresses-femmes, l'invasion ouromande n'était qu'un souci secondaire. Ce n'étaient pas ces gracieuses dames qui allaient se fader des hordes barbares sur le pré. Les pré-chevaliers s'en chargeraient pour leurs beaux yeux. Par contre, en prenant la clé des champs, l'ex-duchesse leur faisait de l'ombre. Elle gâtait même leur teint délicat avec une énorme nuée d'orage. Le trône ducal de Clarissima se mettait à branler. Mais c'était surtout les deux donneuses qui se retrouvaient dans leurs petits souliers. La retorse aux déhardes devait leur avoir gardé deux ou trois chiens de sa chienne et des plus méchants. Même si elle ne parvenait pas à reconquérir son diadème,
elle avait désormais de sérieux atouts pour faire payer les traîtresses. Il était donc logique que les trois commères espèrent de moi ce qu'elles en espéraient.
« J'aime bien que les choses soient carrées, » risquai-je. « Alors on va clarifier un ou deux trucs. Ce que vous voulez, c'est, en quelque sorte, que je mette fin au triangle amoureux. »«
Ah, quand même !» s'exclama Clarissima. « Tu en as mis du temps. »
Et de la même façon qu'un mariage annule l'autre, en ce qui me concerne, ce contrat effacera le précédent.
Si c'est fait sans un pli, ça m'aidera à reconsidérer la question,
lâcha la Péronnelle. Je pris un instant pour bien peser la situation. Ce projet cumulait les difficultés, et pour peu que l'action soit menée à terme, elle ferait de grosses vagues en Bromel. Mais après tout, si cela pouvait rabibocher Clarissima avec son paternel, le jeu en valait la chandelle. Le bazar que ça sèmerait dans le duché, ce n'était pas mes oignons. D'ailleurs, n'était-ce pas ce qu'avait ourdi le patron dès l'origine? Par acquis de conscience, je mis malgré tout le sujet sur le tapis. Bien sûr, vous avez envisagé les suites. Quand l'affaire qui nous occupe sera conclue, vos soucis seront loin d'être réglés. Vous aurez toujours les héritiers, les admirateurs et les complices sur les bras.
Un problème après l'autre, rétorqua Clarissima. On coupe le mal à la racine, on s'occupera des rejets plus tard.
Je dis ça pour vous. Moi, du moment que je regagne mon crédit, le reste, je m'en balaye.
Alors occupe-toi de regagner ton crédit.
Et la racine du mal, où est-ce qu'on va l'extraire, ma Binette et moi?
Ça, c'est ton problème, pas le mien.
J'ouvris les bras en roulant les yeux. Vous en avez de bonnes. Vous avez vu la taille de votre jardin?
« À votre place, je chercherai du côté de la mauvaise herbe, » suggéra la Brigore. « Elle pousse dru dans la cour de verre. »
La place forte du fils aîné. C'était assez logique si Méléagant avait été l'artisan de l'évasion de Madame Mère. En plus, cela recoupait l'hypothèse du chancelier. Malheureusement, ça ne me simplifiait pas la tâche. « Je fais comment pour y aller et pour m'y inviter ?»
« Tu es un grand garçon, Benvenuto, »
me moqua la duchesse.
« Débrouille-toi. »«
Bien sûr, je peux me débrouiller. Mais vous avez vu ma gueule? Et vos deux chaperons, là? Je sais bien que mon accent leur écorche les oreilles. Alors imaginez que je demande benoîtement mon chemin sur la route. La cliente saura qu'un tchoudalien patibulaire la cherche, longtemps avant que je ne vienne poliment frapper à la porte. Sans compter que j'en ai entendu parler de cette gentilhommière. » Au conseil de son Altesse, votre époux. Si toute une armée a du mal à la prendre, ça ne doit pas être de la tarte d'y entrer. Il faudrait que j'aie une clé ou deux pour aller direct à la tonnelle. Et de préférence aussi une solution de repli. Parce que si je suis pris le bêchon dans le parterre, c'est vos plates-bandes qui risquent d'être piétinées. La baronne de Brégor émit un soupir un peu indisposé, mais m'approuva comme un regret.
« Ce que ces dispositions sont triviales, » se plaignit-elle. « Mais enfin, le spadassin parle avec quelque raison. J'ai moi-même examiné la question, dans l'hypothèse où il accepterait de se racheter, et je crois que j'ai conçu un expédient assez heureux. Votre Altesse, souhaitez-vous entendre mon idée ?»
Clarissima accepta d'un geste vague.
« Il se trouve que j'ai dans mes relations... certaines personnes qui me doivent une faveur et qui est introduite dans la société de verre, expliqua la Brégor. Les récents événements me donnent quelque argument pour l'associer à notre entreprise. Cet obligé pourrait non seulement conduire notre estafier jusqu'à verre, mais aussi l'aider à entrer dans les lieux.
En affectant la nonchalance, la grande dame crut bon de préciser «
L'entreprise nécessitera cependant un peu de délicatesse, maître Jezoufal. Le guide auquel je songe sera votre dupe et non votre complice. Il désapprouverait avec la dernière énergie l'action que vous fomentez. Il conviendra donc de lui dissimuler le motif réel de votre voyage,
inventer quelques raisons assez convaincantes de vous présenter devant les seigneurs des lieux, et tenez-vous-y jusqu'au trait décisif. »
Manifestement, la Brégor, avec ses toilettes stylées, ses grands airs et sa langue bienséante, ne savait que trop nager en eau trouble. Ça sentait l'entourloupe à tiroir, cette combine. Ni la dupe ni la victime n'étaient forcément celles qu'on pouvait croire, et j'aurais intérêt à surveiller mes arrières. Mais même si je devais me garder de faire confiance à ce comparse qu'on me vendait comme un idiot utile, au moins on me fournissait un moyen de montrer patte blanche.
« Pas de problème pour la couverture, » répondis-je. « Je fais partie de l'ambassade, non ? Je prétendrai être porteur de propositions financières du Podesta pour acheter la paix avec la partie adverse. »
Le prétexte n'eut pas l'air d'enthousiasmer la baronne.
« Oui, cela suffira peut-être, » commenta-t-elle sans grande conviction. « Je vous recommanderais cependant d'habiller un peu mieux votre subterfuge. N'oubliez pas à qui vous avez affaire. » Dans cette société, les sujets d'argent sont considérés comme un peu vulgaires. Brodez avec d'autres arguments, matrimoniaux ou fonciers. Enrobez ces comptes avec des promesses de cadeaux de prestige. Nos ennemis sont des gens de goût, qui raffolent de chasse et de poésie. Laissez entendre que votre seigneur, en gage d'amitié, serait fort aise de leur offrir les meilleures meutes ou des ouvrages précieux. Ce langage vous permettra d'être plus facilement admis dans l'entourage de la personne que vous devez entreprendre.
Je vais y songer. Au pire, je ferai miroiter les propositions secrètes dont je serai porteur, que je ne pourrai confier qu'à qui de droit.
C'est une possibilité parmi d'autres. Évitez cependant de jouer les mystérieux ou, à rebours, de faire l'article comme un camelot. La dame, son fils et sa bru sont gens d'esprit. Ils éventeront votre manège sitôt que vous manquerez de finesse.
Ça n'allait pas être simple, cette visite, avant même qu'on en arrive aux choses sérieuses. Il allait falloir surveiller mes manières et enquinauder de grands fauves affûtés comme des renards. Certes, j'avais acquis un vernis de civilité en fréquentant les palais de Torresella. Pour autant, ça ne m'avait pas permis de briller à la cour de Caruel. Au moins, je pourrais invoquer la défaveur dont je jouissais auprès de la nouvelle duchesse pour approcher l'ancienne. Il allait quand même falloir m'y tenir un char aux petits oignons si je ne voulais pas être démasqué illico. Le plus tôt je m'y mettrai, le mieux ce sera. Dis-je moins par conviction que pour endormir la défiance de Clarissima. Quand est-ce que je pourrai rencontrer la bonne âme qui me recommandera ?
Dès demain, répondit la baronne. Avant que les armées ne lèvent le camp. Je vais tâcher de rencontrer notre ami dès ce soir. Venez prendre congé à la première heure dans mes quartiers, et si tout se déroule selon nos vœux, je vous y présenterai votre guide.
Et c'est qui ce brave homme ?
Un sourire de coquetterie effleura les lèvres de la belle Erambour. Permettez-moi de vous faire la surprise, me dit-elle. Tant que je n'ai pas l'assurance d'avoir obtenu son concours, je m'en voudrais de compromettre ce gentilhomme. Mais rassurez-vous, maître Djezoufal, je mettrai tout en œuvre pour parvenir à mes fins. Ce chevalier le mérite, d'ailleurs. Il vient de faire de merveilleuses prouesses sur la lys.